Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti !
Un pas en avant, un pas en arrière. C'est la petite danse familière du backlash, ou retour de bâton, une valse hésitation qui freine les femmes dans l'avancée de leurs droits. La preuve avec la dernière une du magazine Valeurs Actuelles, selon laquelle le féminisme serait un péril, voire une terreur. Alors, quels sont les visages du backlash aujourd'hui? Et de quel discours parle-t-on? Pour en parler aujourd'hui, on va accueillir dans le studio Anne-Laure Pineau. Salut.
Salut Clémentine.
Comment ça va?
Ça va super, un peu sous l'eau. Mais bon, c'est quand même pas mal d'être sous l'eau. Et pour être honnête, je suis un peu en PLS à cause de la série Killing Eve, qui est quand même tellement géniale. Et bon, là, on est un peu au max niveau tension, saphique, sadistique.
I love you.
No.
I do.
Écoute, j'ai pas encore vu toute la deuxième saison, donc ne me spoil pas.
Donc le pitch de Killing Eve, c'était donc une tueuse professionnelle poursuivie par une flic. C'est une série anglaise et on ne sait pas à la fin de la série si il y a une proie ou pas. En fait, les deux sont les proies de l'autre. C'est ça qui rend le truc hyper sexy.
Et on y retrouve Sandra Oh, la comédienne de Grey's Anatomy. Qu'on aime particulièrement.
Thank you so much.
Et toi, ça va?
Oui, alors moi, je progresse assez péniblement sur mon mémoire que je dois rendre incessamment sous peu. Et pour m'en distraire dans des périodes de procrastination, j'ai lu le dernier numéro du magazine Society, dont la une est consacrée à Virginie Despentes, qui pose fièrement avec son chien, enfin sa chienne, et qui raconte tous ses regrets sur l'adaptation de la série Vernon Tibutex, dont on avait parlé dans un épisode. Voilà, donc pour en savoir plus sur les dessous pas très nets de l'affaire, vous pouvez vous référer au magazine.
Tout n'est pas foutu, donc il y a de l'espoir.
Et alors, du côté des news féministes et LGBT, quoi de neuf?
Ah bah nous, déjà, la grande nouvelle, c'est que les nominés des Outdoors viennent juste de sortir. Donc l'AJL, l'Association des journalistes LGBT, fait tous les ans une cérémonie pour la visibilité dans les médias et même en général dans la vie culturelle française. Et cette année, les nominés sont sortis. Vous pouvez trouver ça sur le site internet. Et surtout, vous pouvez voter. Il y a un vote public pour la personnalité de l'année. Entre autres, il y a Océan, Kiddy Smile, Rebecca Chaillon, Julia. Bref, des personnes qui ont été importantes cette année, à notre sens. Donc, votez, c'est important. En fait, il y a à la fois la cérémonie, il y a une exposition photo qui est super bien, des débats. Tout ça, c'est du 17 juin au 3 juillet à Paris.
D'accord, ben, on y sera en plus. Et alors, pour revenir au thème de la semaine, donc le fameux backlash... Alors, on parle, en français en tout cas, de retour de bâton, de retour de manivelle, de ressac, de valse hésitation, voilà, appelons ça comme on veut. Mais alors d'abord, d'où vient ce concept? Qui est-ce qu'il a élaboré et qu'est-ce que ça recoupe comme réalité?
Alors déjà, toutes les deux, on a fait un achat pour l'occasion de ce podcast. C'est le super livre de Suzanne Faludi, qui est vraiment un texte important. Ça s'appelle « Backlash, la guerre froide contre les femmes ». Donc elle est journaliste américaine, elle travaille au Wall Street Journal.
I mean, I just have such a big mouth.
Et en 91, elle a publié une enquête au long cours sur... en gros, la situation des droits des femmes aux États-Unis. Et c'est là qu'elle élabore le contexte du backlash et compare la situation des années 60... 60-70 avec celle des années 80. Et surtout, elle constate qu'à chaque avancée suit un retour de bâton, donc un backlash, c'est-à-dire une volonté politique de punir un peu les femmes, de les faire culpabiliser des progrès éventuels qui ont été faits sur leurs droits. Donc il faut rappeler que ça, c'est quand même quelque chose qui date un peu. Donc même au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a vite renvoyé les femmes à la maison parce qu'elles avaient, on le sait, un peu remplacé la force de travail des hommes à ce moment-là.
Et c'est vraiment mécanique, en fait.
Ouais, c'est complètement mécanique. Dès qu'elle gagne un terrain, derrière, il y a le coup de semonce. Donc, à ce moment-là, Suzanne Faludi diagnostique ce qu'elle appelle une excessive réactivité des hommes aux victoires les plus microscopiques des femmes. Donc, une pichenette pour gagner et une grosse claque par derrière.
C'est ça, il y a vraiment un décalage, en plus, entre la réalité et l'ampleur de la réaction.
C'est ça. Et surtout, les petites victoires, du coup, passent complètement inaperçues. Donc on le voit dans les années 70 aux États-Unis, puisque Suzanne Faludi travaille principalement sur les États-Unis, on voit que les progrès, par exemple, sur l'emploi féminin, le contrôle des naissances, sont suivis systématiquement de représailles. Et, par exemple, des mesures concrètes contre les réglementations draconiennes sur l'emploi des femmes, ou même l'interruption de la recherche sur la contraception. À ce moment-là, c'était ça, le backlash.
Et alors, évidemment, comme le sexisme, d'ailleurs, le backlash ne dit jamais son nom. et puis, en tout cas, Suzanne Falloudi, tu l'as dit, dans son enquête, va vraiment scruter chaque pan de la société pour y déceler des signes de ce backlash. Elle va regarder les médias, la culture, la politique des années Reagan. Et elle va expliquer que le phénomène est d'autant plus sournois que la société va vraiment se servir des avancées des femmes contre elles, en expliquant que c'est en fait le féminisme qui est responsable de tous nos maux.
Of course.
Évidemment. Donc, je la cite, elle dit que c'est un prix énorme que la société fait payer aux femmes pour leur avoir accordé quelques maigres faveurs. Et donc, un exemple très concret de ça, dans les années 80, on va voir que beaucoup d'études scientifiques seront soit bâclées, soit mal interprétées, et vont vraiment servir de socle à la propagation de mythes assez pernicieux. Mmh. Donc, par exemple, qu'est-ce qui arrive aux femmes actives qui sont décrites à cette époque-là comme des arrivistes aux ambitions égoïstes? Eh bien, ce qui les attend, c'est des fausses couches, des enfants mort-nés ou des enfants prématurés, tout simplement.
Oh, well, you'll never get married, or oh, you'll never have children, or oh, your children are going to be molested in daycare, or oh, you're going to become a crazy career nut who goes around boiling rabbits like the woman in Fatal Attraction. It fit into this little morality play we all have in our head.
Ça me rappelle le coup du vélo, tu sais. Les femmes qui font du vélo, elles peuvent avoir des problèmes masturbatoires, je sais pas.
Ça, c'était plutôt à la fin du 19e siècle. Et donc, voilà, dans les années 80, les femmes célibataires et émancipées, paraît-il, seraient davantage sujettes à la maladie mentale, à l'infertilité. Voilà, et donc tout ça, c'est tout un tas de fables qui vont être en réalité un arsenal répressif propagé par l'administration Reagan à l'époque sous influence de la Nouvelle Droite, donc un courant conservateur chez les Républicains. Et le but, évidemment, de tout ce discours, c'est de dissuader le divorce, l'avortement, au profit de campagnes natalistes dites de défense de la famille. Et le message sous-jacent pour les Américaines, évidemment, est toujours le même: rentrer à la maison.
D'ailleurs, elle montre bien que l'après-guerre, c'est le moment typique où on favorise des discours natalistes et donc anti-féministes. Moi, ça m'a rappelé, pour le coup, c'est la France, mais Pétain avait institué les médailles d'or des mères de famille et Clémenceau a continué cette tradition. Aujourd'hui, on fait encore la fête des mères, d'ailleurs. Et ça m'a rappelé que mes deux grands-mères, donc, qui ont eu chacune 11 et 10 enfants, ont eu des médailles d'or et c'était un peu la fierté. Genre, nous, on part pas, on n'amène pas nos enfants à la crèche, on n'est pas des mauvaises mères. Voilà, c'est un peu la même idée que défend Falloudi. Donc, le truc, c'est qu'en plus de la politique et des discours rétrogrades, c'est qu'ils ont été aussi relayés par la presse, et ça, c'est quand même un truc de fou. Donc, la presse, qui avait au préalable soutenu le mouvement des droits des femmes, là, d'un coup, le décrivilise avec une ardeur égale, voire supérieure.
Quel paradoxe.
Mais oui.
Quel retournement de veste.
Complètement, mais on est un peu habitué, à vrai dire. En 75, déjà, les médias adoptaient une stratégie, parce qu'on peut vraiment utiliser le mot stratégie, pour neutraliser le féminisme, tout en l'utilisant à des fins proprement commerciales. Donc, Suzanne Falloudi dit « Les femmes seraient désormais égales et n'ont plus besoin de nouveaux droits, mais de nouveaux modes de vie », pouvait-on lire à l'époque. Flippant. Le pseudo-féminisme enthousiasme des médias disparaît soudain dans les années 80. La marche funèbre commence, le féminisme est mort, lit-on partout en une. Bref, le livre de Falloudi, en gros, il faut que vous le lisiez. C'est un pavé de 600 pages, donc faut se le taper. Mais vraiment, c'est une lecture fluide. En plus, je trouve que c'est bien écrit. Et c'est vraiment crucial pour comprendre ce phénomène. Bon, pour les plus téméraires, vous pouvez le lire en anglais, c'est bien. Mais sinon, les éditions des femmes, qui sont quand même formidables, l'ont publié et donc traduit en 93.
Oui, d'ailleurs, pour toutes les maisons d'édition qui nous écoutent ou pour les éditions des femmes, ça pourrait être pas mal de le republier aujourd'hui, peut-être en édition augmentée, avec une préface qui fasse écho au mouvement MeToo, qui sait. puisqu'effectivement, l'apport, tu l'as dit, assez essentiel de Suzanne Falloudi aujourd'hui, c'est qu'elle parle du caractère vraiment cyclique du backlash anti-féministe et anti-LGBT, puisque celui-ci est donc concomitant de tout progrès, et qu'on essaie donc de faire croire aux femmes, mais d'ailleurs aux hommes aussi, qu'un gain va automatiquement occasionner une perte. Mmh. Ça nous rappelle d'ailleurs ce qu'a écrit le philosophe Paul Preciado dans Libé l'année dernière, je cite. Depuis les secousses de la révolution sexuelle et anticoloniale du siècle passé, les hétéropatriarches sont embarqués dans un projet de contre-réforme. Dans l'hétérosexualité défendue par cette contre-réforme, le désir hétérosexuel masculin est premier, naturalisé, fossilisé. Or, le désir est toujours en processus de construction. Donc on se souvient l'année dernière des affaires donc Avital Ronell, cette universitaire américaine qui a été accusée par un homme de harcèlement sexuel, et aussi Asia Argento qui a également été accusée par un homme des mêmes faits. Et alors, quelle que soit l'issue de ces deux affaires face à la justice, et ce qu'on peut retenir, en tout cas en ayant lu Falloudi et en ayant vécu un an et demi de mouvement MeToo, c'est que souvent le backlash est une question de rhétorique. Tout comme l'antiféminisme, c'est vraiment une question de discours dans lequel on va minimiser ou au contraire caricaturer les faits, donc parler d'effets pervers ou anticiper le pire. Et par un habile retournement, on va essayer de faire croire que les dominants sont en fait les dominés et les vraies victimes flouées. Donc on va dire que le désir féminin est différent du désir masculin, on va dire que la culture du viol n'existe pas, on va dire que les hommes sont émasculés par les féministes. Voilà.
Je ne suis pas du tout misogyne.
Les hommes sont complètement perdus, ils ne savent plus qui ils sont. Et du coup, les femmes, par réflexe, disent « Ah oui, moi, je ne veux pas d'un macho ». Mais en fait, elles ne savent même pas ce qu'est un macho et elles ne savent même pas ce qu'elles veulent.
Mmh. Et ça, on peut le retrouver actuellement avec la PMA pour toutes. Hein. Oui. Si les femmes commencent à faire des enfants, entre guillemets, toutes seules, alors bientôt, elles tueront tous les hommes. Oui, voilà. Le lien est tout à fait correct.
Oui, c'est vraiment un raccourci dans la logique.
Si vous avez encore envie de lire après Falloudi, les PUF, donc les Presses Universitaires de France, ont sorti récemment un ouvrage collectif super cool, dirigé entre autres par Christine Barr, qu'on aime beaucoup ici. Et il est intitulé « Antiféminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui ». Donc, antiféminisme et masculinisme, deux choses différentes. Mais ce qui est bien avec cet ouvrage, c'est qu'il montre bien que ces deux choses différentes sont articulées de la même façon et fonctionnent ensemble. On est contre le féminisme, pourquoi ? Parce qu'il attaque les hommes. Ce qui est évidemment archi faux, enfin bref. Et ça démontre bien le mécanisme de l'effet pervers aussi qu'avait analysé entre autres le chercheur Albert Hirschman dans son livre « Deux siècles de rhétorique réactionnaire ». Puisque, voilà, réactionnaire contre le féminisme, contre toutes les minorités, c'est toujours un peu la même chose. L'ouvrage revient sur la place des femmes dans l'antiféminisme aussi, et ça je trouve ça très intéressant. Avec un article passionnant sur la naissance du Tumblr « Women Against Feminism », qui a été, ce Tumblr a été créé en 2013. Et on peut aussi penser, même si ce n'est pas dans le livre, hein, au mouvement des Antigones. Vous vous rappelez, ces résistantes militantes de la droite conservatrice pour protéger la place des femmes dans les cuisines. Et c'était un peu la même chose.
Vous vous affirmez dans l'indignation et la violence. Nous faisons bloc, avec calme et détermination. Et nous citons Antigone. Je ne suis pas faite pour vivre avec ta haine, mais pour être avec ceux que j'aime.
Donc en gros, on peut classer les arguments antiféminisme du backlash comme ça. On ne peut plus rien dire, c'est exagéré, MeToo détruit la vie d'hommes innocents, c'est une chasse aux sorcières, c'est une guerre des sexes. Bref, tout ça, on le lit comme ça,
à longueur de journée.
À longueur de journée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des grands hebdomadaires. La thèse de l'effet pervers, on peut la lire à travers des histoires comme « On ne parle pas des hommes battus, on ne parle que des femmes battues ». On ne parle pas des hommes violés alors qu'ils existent. Rappelons que les pourcentages démontrent que c'est très très minoritaire.
Oui, et surtout que les hommes battus et les hommes violés le sont en majorité par d'autres hommes, ce qui est souvent ce qu'on oublie à la fin de la phrase.
Mais on trouvera, le rédacteur en chef voudra toujours trouver l'exemple où c'est une femme qui est agresseuse parce que c'est important de le montrer pour certaines personnes.
Oui, mais alors qu'en réalité, l'exception n'infirme pas la règle. Donc, ce n'est pas logique.
On est bien d'accord. Donc il faut bien décrypter ce qui est sous-entendu derrière l'inquiétude qui est derrière tout ça. L'érosion du pouvoir masculin, en gros, ça fait flipper tous ces hommes. Et Faludi s'amuse, c'est un peu notre référence dans ce podcast. Elle dit « Rien n'abîme davantage les pétales masculins que la plus légère ondée féministe.
» Ce qu'on peut aussi résumer par « ouin ouin
».« Ouin ouin chagrin ».
Et alors un exemple précis, notamment dans la culture, on en a déjà parlé dans le podcast, c'est le cas du comédien américain Aziz Ansari, qui a été attaqué dans un article publié sur le site babe.net par une jeune femme qui l'accusait de l'avoir forcé lors de rapports sexuels.
In the wake of an article about Aziz Ansari. Date with comedian Aziz Ansari.
Aziz Ansari is pushing back.
Her date with comedian Aziz Ansari.
Et donc il y a eu un vrai backlash contre cet article et pas uniquement contre la manière dont il était rédigé, mais on se souvient que le New York Times avait écrit Aziz Ansari est coupable de ne pas lire dans les pensées. Donc c'est quand même vraiment de mauvaise foi. Et d'ailleurs, même l'autrice Margaret Atwood, donc, qui a écrit La Servante écarlate, y est allée de son petit essai sur la question. Et donc, ce qu'on a surtout entendu après cette affaire, c'était « ça va trop loin, on confond tout », ce qui est en fait, comme backlash, une forme de victim blaming, donc le fait de blâmer toujours la victime de ne pas avoir assez bien réagi. On a également essayé d'en faire une affaire de génération, donc pas mal de personnes plus âgées ont dit « Ah, mais de mon temps, les femmes savaient se défendre », comme si c'était à elles de se défendre, en fait. Bref, on a souvent essayé de minimiser cette expérience ou de la décontextualiser de tout rapport de pouvoir et de domination, au lieu précisément d'ouvrir une discussion sur le sujet du consentement. Et alors, il y a un autre domaine où le backlash, ces jours-ci, sévit en force, c'est le monde du travail. Et notamment aux États-Unis, il y a eu quelques articles sur Wall Street et le milieu de la finance, où on a expliqué qu'il fallait absolument éviter d'embaucher des femmes, tout simplement. C'était ça la bonne réponse au mouvement MeToo. Et ce, afin d'éviter d'éventuels problèmes de procès. Donc voilà, ce qui revient finalement à discriminer encore plus les femmes.
Oui, puis dans ces temps un peu catastrophistes de fin du monde, d'écologie, l'argument antiféministe arrive même à se faufiler dans cette espèce d'air catastrophiste. Et ça, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire, on donne des droits aux femmes, c'est la fin du monde. Il y a comme une flèche qui va directement des droits des femmes à la fin du monde.
Un lien de cause à effet qui nous échappe.
Oui. Et dans la série LSD, donc sur France Culture, Pauline Mocor a fait une super série sur les centres éducatifs fermés. Donc, dans l'un des épisodes qui parle de la violence des filles, il y a l'interview passionnante de la sociologue Colline Cardy qui a beaucoup travaillé sur cette question. On l'écoute.
Cette soi-disant explosion de la délinquance des filles, elle est à relativiser. Mais dès qu'elle réapparaît dans les médias ou dès que les pouvoirs publics commencent à s'inquiéter de cette délinquance, là, il y a une réutilisation pour un discours sécuritaire autour de, au fond, si même les filles s'y mettent, alors il est temps effectivement qu'on redresse ces jeunes.
Alors effectivement, tu l'as dit, et c'est encore le cas aujourd'hui, les médias, donc nous, participent vraiment à cette lecture à rebours, qui est quasiment de la fiction, puisque c'est en grande partie de l'anticipation. Mm. Peut-être que ça a à voir avec les mécanismes de l'anxiété, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est donc une lecture qui privilégie, on l'a dit, le regard des dominants en les posant comme victimes. Donc le magazine Valeurs Actuelles a publié son dernier numéro avec en une donc la terreur féministe. Sache que j'ai lu ce dossier qui dit que les journalistes féministes dont nous faisons partie sèmeraient donc la terreur dans le milieu médiatique et politique, que ces personnes dont nous faisons partie manquent d'objectivité, ce qui est quand même une très belle leçon de journalisme de la part de Valeurs Actuelles, que ces personnes participeraient à une dérive sectaire, à une forme de terrorisme intellectuel. Alors que, donc, on le rappelle, pour remettre les choses dans leur contexte, on parle bien de groupes qui restent extrêmement minoritaires dans la société, qui sont des réseaux d'entraide, qui ne sont ni des lobbies, ni de la franc-maçonnerie, et qu'on peut comparer peut-être au syndicalisme ouvrier, à propos duquel il ne nous viendrait pas à l'idée de dire « Tiens, on a vu deux ouvriers qui prenaient le café à la cafette, ils complotent pour... » pour prendre le pouvoir sur le monde entier.
Ça dépend de quel point de vue on passe, parce que je pense que les patrons, quand ils voient deux ouvriers serrer la main et boire un café, peut-être qu'ils ont un petit problème.
En tout cas, il y a eu également une du même acabit dans le magazine Marianne, dont on avait déjà parlé, donc les obsédés du genre et de la race, et même la publication assez progressiste Usbek Erika s'y était mis il y a quelques mois avec un édito sur une supposée guerre des sexes. Voilà, tout ça nous laisse un peu perplexes.
Et en parlant de médias, moi je me souviens bien, et j'imagine que tu t'en souviens bien et vous aussi, du retour de manivelle hyper violent de la tribune des Catherine après Balance ton porc, donc la tribune menée entre autres par Catherine Deneuve, qui avait été publiée dans Le Monde. Elle était hyper violente parce qu'elle était déjà, un, portée par des femmes, mais aussi publiée par Le Monde. Et à ce moment-là où on était vraiment toutes un petit peu traumatisées chacune de notre côté, de lire les mots « séduction à la française » dans un grand quotidien, c'était quand même archi-violent. Et on peut dire ce qu'on veut, c'est peut-être une tribune, mais Le Monde a choisi de la publier. Donc, de toute façon, à mon sens, c'est grave.
Et, oui, c'est vraiment une des étapes, je pense, du backlash de MeToo, puisque c'était donc en janvier 2018, donc vraiment quelques mois après le début du mouvement.
Et puis d'ailleurs, tout ce qui est valable pour le féminisme, elle est aussi pour les minorités. On l'a bien vu dans ce que tu disais par rapport à Valeurs Actuelles. En gros, tout ce qui va contre la toute-puissance du pouvoir sûr, comme l'appelle la sorcière Starhawk, qu'on aime aussi beaucoup dans ce podcast, va être systématiquement attaqué. On le voit bien, par exemple, avec l'article « La tyrannie des minorités » qui avait été publié dans l'Express il y a quelques semaines. Donc là, a priori, c'était que les femmes, les noirs, les homos n'ont pas tout le droit de se plaindre et que leur seul désir aujourd'hui, puisqu'ils ont des droits, c'est forcément de réduire les hommes blancs à néant et d'instaurer un nouvel ordre du monde, un nouveau politiquement correct. Ça aussi, le politiquement correct, c'est un argument antiféministe très souvent utilisé.
Un élément de langage du backlash.
Exactement. D'ailleurs, il suffit de voir comment, un élément de langage, comment le vocabulaire lui-même est important. L'utilisation du vocabulaire martial, par exemple, pour parler des avancées dans les droits. Donc, c'est des victoires, des batailles, c'est une guérilla, c'est ces mots-là qui sont utilisés. Ça sous-entend quoi? Que deux camps sont opposés et donc que, par définition, quand il y a victoire, il y a contre-attaque. Voire des blitzkrieg. Donc la blitzkrieg, c'était une méthode de guerre sur le front de l'Est utilisée par les nazis. Donc c'était le principe, c'était de prendre l'ennemi à revers. Donc c'est ce qu'on voit quand c'est du coup des femmes qui portent un discours antiféministe. Et ça peut rappeler aussi que les mouvements masculinistes, dont on a déjà parlé ici, parodient aussi les armes du féminisme des années 60, utilisent les mêmes mots. En parlant de backlash, si on doit parler par exemple des personnes LGBT+, toutes ont très mal vécu 2013, qui était pourtant censé être l'année de tous les
de toutes les
victoires,
avancées.
De toutes les avancées. On avait enfin un droit au mariage et donc à la famille. Et pourtant, ça a été cette victoire-là nous a été complètement chippée, puisque ça a été la pire contre-attaque homophobe que des jeunes comme moi, puisque je suis assez privilégiée, je suis née dans les années 80, donc j'ai pas vécu le pire. Mais cette attaque-là, homophobe, on l'a vécu, lesbophobe, on l'a vécu de plein fouet. On avait envie de célébrer et derrière, on avait peur de donner la main à notre copine plus que jamais.
Donc il y a eu vraiment l'idée qu'il y a un prix à payer, en fait.
Ouais, c'est ça. Et surtout, il faut pas se plaindre.
Ouais, évidemment. Et alors, est-ce qu'on a fait l'expérience personnelle du backlash, toi, de ton côté?
Alors moi, là, je viens juste de parler de 2013 et du mariage pour tous, mais aussi, j'ai personnellement trouvé les différentes défenses des harceleurs ou des personnes touchées par les accusations dans le cadre de MeToo, par exemple. Je les ai trouvées vraiment incroyables et vraiment violentes. Par exemple, la plainte qu'a déposée Denis Baupin contre les femmes qui l'avaient accusée, j'ai trouvé ça profondément odieux.
Oui, c'est vraiment un renversement de perspective où la personne accusée se victimise.
Donc. C'est ça. Et peut utiliser en fait la justice, les moyens de justice contre les victimes. C'est ça qui m'a rendue vraiment folle. Et toi, du coup, t'as senti des trucs un peu similaires ou...
Ouais, moi je trouve que ça pue un peu en ce moment, effectivement.
Le moment.
Pop.
Culture.
Pop. Culture.
Et alors, du côté de la pop culture, la culture historique du backlash, c'est vraiment donc celle des années 80 qu'a identifié Suzanne Faludi, notamment le film culte Liaison fatale de Adrian Lyne, donc 1987, avec Michael Douglas et Glenn Close, qui joue une maîtresse hystérique qui va harceler son amant et même tenter de le buter. A look that led to an evening. We were attracted to each other at the party, that was obvious. You're on your own for the night, that's also obvious. A mistake he'd regret all his life. Now where's your wife? C'est vraiment un film qui va entreprendre de diaboliser les femmes célibataires et émancipées, tout simplement en les montrant comme une menace et un repoussoir pour les bons foyers américains. On peut aussi citer l'exemple du film Baby Boom avec Diane Keaton, qu'on aime pourtant énormément, qui fait le portrait d'une femme d'affaires new-yorkaise qui va finir par déménager à la campagne et par faire des compotes pour bébé avec son enfant. Your baby just barfed all over my boss. This is not my baby. I went to Yale and Harvard. I don't have children. Donc, ce que dit Faludi, c'est que c'est vraiment le signe d'une allégeance du cinéma à la famille traditionnelle qui montre que carrière et bonheur personnel seraient incompatibles. Donc, en fait, il y a eu des personnages de célibataires assez battantes dans les années 70, puis ensuite leur ont succédé des personnages de femmes assez soumises dans les années 80.
Faludi montre aussi qu'il y a de moins en moins de personnages féminins dans les séries télé et que quand il y en a, ils sont punis quand ils sont émancipés.
Évidemment.
Évidemment. Donc soit les victimes sont réduites au silence ou réduites à des rôles de figuration ou de potiche, soit elles font face à des sortes de machos musclés, à des bellâtres qui les séduisent. Mmh. Merci Aaron Spelling pour ta contribution.
Donc Aaron Spelling, c'était le producteur d'innombrables séries télé, dont Beverly Hills.
Bon, que je regardais hein, par ailleurs, c'est mon mea culpa, mais le principe c'est quoi? C'est de ramener les femmes au foyer, de ne pas les rendre trop menaçantes. Donc Brenda, tu peux faire des études, mais bon, rappelle-toi quand même que t'as un cœur.
C'est ça.
Et même dans une série moderne comme Game of Thrones, hein, pour Faludi n'en a pas parlé, mais nous on peut le faire, les femmes indépendantes finissent toutes comme soit des tyrans sanguinaires. Rappelons que l'actrice qui joue Daenerys Targaryen a regardé des speeches de Hitler pour son personnage. Avar Valar, Rignar, Tolegregum Votis. Ou bien payent très fort le prix de leur victoire. Par exemple, Sansa, pour être un personnage fort, doit passer par la case, entre guillemets, viol. Mm. Elle l'explique elle-même, elle dit « Le petit oiseau que j'étais devait mourir pour devenir celle que je suis aujourd'hui. » Without Littlefinger and Ramsay and the rest, I would have stayed a little bird all my life. Donc, il y a quelque chose d'assez problématique là-dedans, à mon sens.
Et alors, il y a d'autres séries emblématiques du backlash aujourd'hui, notamment diffusées sur Netflix. On peut citer L'Éternelle Sorcière, donc, qui raconte l'histoire d'une femme esclave qui va voyager dans le futur et qui va finir par revenir dans le passé pour sauver son amoureux, un esclavagiste blanc.
Oh. Voilà.
Beau programme. Et à mon sens, puisqu'on en a pas mal parlé récemment, on peut aussi mentionner White, donc l'essai de l'écrivain américain Bret Easton Ellis, qui évoque justement son statut d'homme blanc et qui se dresse en justicier contre le politiquement correct qui gangrènerait aujourd'hui les États-Unis. Il dit notamment que la réalisatrice de Des Mineurs, Catherine Bigelow, est vraiment surestimée, etc., etc. Pour moi, c'est un peu le livre du backlash en ce moment et il a été plutôt bien reçu en France d'ailleurs, ce qui est étonnant.
Étonnant. Le ouin-ouin chagrin marche bien en France de toute façon. Et bon, quitte à enfoncer le couteau dans la plaie, parce que j'en ai déjà parlé ici, pour moi, le dernier spectacle de Blanche Gardin, c'est un peu le backlash de fou. Je me suis sentie trahie tout du long, encore une fois. J'avais l'impression d'être face à la tribune des Catherine, mais en live. Si c'est du second degré, ce qui apparaît, son argument, il n'empêche que pendant tout le spectacle, ça décrédibilise le mouvement MeToo, les victoires des féministes, et ça défend Louis C.K. et compagnie. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les Louis C.K. et compagnie, à savoir Polanski et Woody Allen, en ce moment, justement, sont défendus par beaucoup de personnes. Donc, la Cinémathèque s'évertue à recevoir Polanski et le fait que les mémoires de Woody Allen ne trouvent pas éditeur font pleurer moult personnes.
Et ben, on les laissera pleurer pour l'instant. Alors, qu'est-ce que tu lis ces jours-ci?
Alors, je lis des choses qui n'ont pas justement à voir avec tout ça, parce qu'il faut un peu s'aérer le cerveau des fois. Donc, moi, je suis fan d'Anouk Ricard, qui est une bédéaste qui dessine des petits animaux dans des situations géniales. C'est pour moi mon petit Leonardo DiCaprio. Je suis vraiment sur fan de cette meuf.
Je suis pas sûre que Leonardo DiCaprio soit très drôle. Mais...
Oui, c'est vrai. Mais c'est une star pour certains.
C'est vrai.
Si vous ne connaissez pas, lisez Coucou Bouson, qui est vraiment qui m'a fait perdre mes eaux urinaires. Enfin, plusieurs fois, j'ai lu peut-être 25 fois.
Je suis complètement d'accord. Moi aussi, c'est ma BD préférée d'Anouk Ricard. Oui. Et je pense que c'est un cadeau qu'on peut faire à peu près à tout le monde.
À tout le monde.
Ouais.
Et là, elle vient de sortir une nouvelle BD en collaboration avec l'artiste Étienne Chase, qui a fait, entre autres, la couverture du CD de Juliette Armanet. Donc, Boule de Feu, ça s'appelle, et c'est sorti aux éditions 2024. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui est considéré par erreur comme le sauveur d'une planète lointaine. Et une sorte de chien avec une tête bizarre vient le récupérer et il s'ensuit de merveilleuses incompréhensions. C'est drôle, absurde, c'est magnifique. Bref, vraiment, ça fait du bien.
Bon, fait tourner.
Ouais.
Et alors justement, pour rester au rayon anthropomorphisme, moi je recommanderais la série Touka et Bertie qui est diffusée en ce moment sur Netflix et qui est produite par la même équipe que BoJack Horseman. I deserve to be treated like a person and not an object. So get out of my space or I'll break your face. Et pour moi, c'est vraiment une série héritière de Broad City, donc une autre série qui vient de se terminer à mon grand regret. Ça parle de deux copines, donc deux oiseaux, un toucan et un autre petit oiseau non identifié, qui luttent ensemble contre le patriarcat et voilà, ça dresse le double portrait d'une sororité assez azimutée et assez drôle. Ça parle d'anxiété, de morpion, de...
Ah, ça donne envie.
Voilà, de promotion au bureau, etc. Donc je vous le recommande.
Allô, allô,
allô, allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute.
Arclette nous a posé la question suivante. Comment trouver la bonne asso ou s'engager? Vaste question.
Effectivement. Alors, moi, ce que je peux dire de mon expérience personnelle, c'est qu'elle a été assez souvent liée à du social, en fait, au fait de sociabiliser, puisque moi, j'ai rejoint des amis qui étaient souvent déjà engagés dans des projets. Par exemple, l'association de journalistes Prenons la Une, qu'on a créé ensemble à plusieurs, enfin, en tout cas, que moi, j'ai rejointe dès ses débuts. Voilà, c'était des gens que je connaissais déjà. Et souvent, quand on arrive dans une structure qui est déjà établie, ça peut prendre un peu de temps pour s'inscrire amicalement voilà, dans le projet. Donc, peut-être que tu peux décider de monter un projet avec des amis. Je pense que ça dépend aussi de ta ville ou de ta région. Je pense qu'il faut voir, est-ce qu'il y a déjà des groupes particulièrement actifs? Est-ce qu'il manque de la visibilité sur certaines questions? Peut-être que tu peux te joindre à des actions ponctuelles déjà, comme de l'affichage, du tractage, ou peut-être démarrer un compte Instagram, ce qui est aussi une bonne manière d'acquérir de la visibilité. Et je pense que d'abord, pour se décider, il faut délimiter un peu tes centres d'intérêt. Est-ce que c'est, je sais pas, l'écoféminisme, la maternité, l'égalité professionnelle, le skate, la bouffe, voilà, que sais-je. Et tu peux aussi te tourner du côté des organisations politiques comme Nous Toutes, qui ont un site qui va répertorier leurs différentes bases en France. Tu peux aussi demander à ta mairie voilà, ce qui est organisé. Mmh.
Voilà. Moi, j'aurais juste un petit conseil. À la limite, choisis-en une et investis-toi à fond, parce que s'investir dans plusieurs associations, je pense que ça peut être un piège. Tu peux à la fois te noyer complètement dedans, dans cet engagement, et surtout ne faire le boulot à moitié et être au final un petit peu déçu. Donc, choisis-en une et choisis-la bien.
Oui, car le monde associatif, c'est chronophage. Rappelons-le.
Totalement.
Et alors, petit message à caractère informatif avant de terminer cet épisode. En vue d'un épisode à venir qui sera consacré à vos questions d'auditrices et d'auditeurs, vous pouvez déjà nous envoyer vos missives en message privé sur Twitter et Instagram, donc @quadmeuf, et on vous répondra en live. Merci. Quant à nous, je pense qu'on a fait le tour de la question du backlash et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court. Merci. Salut Anne-Laure.
Salut Clémentine.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes, présentée par Clémentine Gallo
et Anne-Laure Pinault,
réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Alexandre Moniol, montage et mixage Laurie Galigani, coordination Laura Cuissard, avec l'aide de Cassandra de Carvalho.